Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmès, Thérèse. Vous ne les connaissez pas ? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont des héroïnes du quotidien.
Françoise, bonjour.
Bonjour Agnelle.
Comment ?
Oui, et toi ?
Ouais. Alors, tu vas faire partie de ces portraits d'héroïnes du quartier.
Oh là là, je suis très flattée.
C'est quoi une héroïne pour toi ?
Alors pour moi, une héroïne, c'est une femme qui porte haut le drapeau de sa propre liberté.
Concrètement, ça veut dire quoi ?
Concrètement, ça veut dire que... Alors, ça ne veut pas dire ni Dieu ni maître. C'est plus facile peut-être de commencer par « ça ne veut pas dire ». Ça veut pas dire de s'opposer à rien du tout, ni aux conventions, ni à l'harmonie qui peut régner entre un homme et une femme dans un couple, ni à tout ça, ni à ce qui peut construire depuis des millénaires justement l'équilibre entre les hommes et les femmes. Pour moi, porter haut le drapeau de ma liberté, ça veut dire bien me connaître.
Les moments où il faut aller chercher la liberté un peu...
Voilà, profond. Donc ça, c'est parfois un travail de mineur, on va dire. Il faut bien se connaître, il faut être conscient de ses limites, avoir toujours envie d'apprendre, se savoir imparfait. Et mesurer l'étendue de son ignorance en permanence. Parce que, voilà.
Ça tombe bien parce que finalement, tu parles de jardinage, là.
Oui, c'est ça. Le jardinage est un moyen d'aller vers la connaissance de soi et donc sa propre liberté, qui est très, très concrètement accessible. On va dire accessible à tous. Il n'y a pas de... c'est pas clivant, le jardinage. Por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron Sí La carta dice el motivo Que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Sé que ese es un motivo Los hombres no piden pan, plomo le dan a milicia.
Héroïne du quotidien.
Alors toi, tu as commencé par faire du jardinage juste au pied de ton immeuble.
Alors mon histoire d'amour avec le jardin commence quand je suis toute petite, dans le jardin de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait une grande maison du côté de Pau, et avec un très grand jardin. Et dans ce jardin, il y avait un carré de framboisiers. Et c'était un carré de framboisier très confortable, qui était bien grand. On pouvait rentrer. Ça allait au-dessus de ma tête. Donc, quand je rentrais là-dedans, c'était comme Alice qui passe de l'autre côté du miroir. Je rentrais dans un autre monde. Un monde avec une atmosphère un petit peu lourde, un peu épaisse, un peu poussiéreuse, avec des vrombissements, des crissements, des froissements, des odeurs, des c'était assez rapproché comme ça, donc il y avait quelque chose de très sécurisant. Moi, j'ai pas eu une belle enfance, et on va dire que pratiquement les meilleurs moments de mon enfance, je les ai passés dans ce carré de framboisier. Donc je me perdais dedans pendant des heures.
Et donc là, dans ce quartier où on est là à Bellevue, tu habites un appart pas loin d'ici.
Ouais.
Et il n'y avait pas de jardin.
Alors, il y avait de la terre. Ouais. Il y avait de la terre. Alors, la terre, elle était toute souillée. Elle était toute dégueulasse. Elle était toute couverte de plein de déchets. Petit, du tout petit au gros déchets. En fait, c'était un point chaud du quartier au niveau des poubelles. Et il y avait des rats en plus. Ouais. Et en même temps, il y avait des hortensias, une haie d'hortensia. Et ça, mon autre grand-mère était très amoureuse des hortensias. Et donc, tout de suite, quand j'ai vu cette haie d'hortensia, je me suis dit, c'est quoi cette haie d'hortensia qui est si peu mise en valeur? C'est quoi tous ces déchets? C'est quoi ces rats?
Tes gants et tes bottes et...
Alors, non. J'ai fait alliance avec mon voisin du troisième.
D'accord.
D'abord, première chose. Enfin, en fait, avec mes deux voisins du troisième et avec le gestionnaire de syndic. Donc, on a d'abord commencé à échanger, discuter, qu'est-ce que c'est la situation, ça se passe comme ça, ils sont où les blocages? Bon, on a pris rendez-vous avec le gestionnaire de syndic qui nous a dit, bon ben, d'accord, parce que nous, on lui a demandé, on lui a dit qu'on avait besoin un petit peu de pognon. Pour, en fait, on a nettoyé, on a assaini, on a repeint et on a commencé le jardin. Voilà.
Donc, dès le début, tu dis que de jardiner au pied de ton immeuble, ça a fait que vous avez été obligé de vous rencontrer.
Ouais, tout à fait. De nous rencontrer, de se mettre à travailler ensemble. C'est pour ça que je dis j'ai fait alliance. Hein, parce que c'est une alliance qui dure. Ça fait 5 ans maintenant. Surtout un des deux voisins, c'est-à-dire celui qui est vraiment très bricoleur, qui a transformé sa cave en atelier, qui sait absolument tout faire. Donc, il ne sait pas jardiner. Moi, je sais jardiner. Enfin, j'ai appris de ma terre. J'ai appris de notre terre, on va dire. Hein. Je pense qu'être jardinier, ça veut dire, ou jardinière, ça veut vraiment dire être tout le temps en apprentissage. Essayer de se rapprocher au plus près de la vie au jardin.
Thank you.
Héroïne du quotidien, un autre regard sur le quartier.
Là, par exemple, on est devant un bout de jardin qui s'appelle comment ?
Le Petit Bévert.
Le Petit Bévert. Et j'en ai vu un autre l'autre jour qui s'appelle ?
Pollen et Colombole.
Tu veux dire que sur le quartier, il y a plein de jardins ?
Il y a, au niveau des jardins amateurs collectifs, actuellement, il y en a 7, sans compter les jardins familiaux. Hein. Alors, il y a les jardins familiaux, des jardins familiaux dans le quartier, il y a celui du Boisgeau, il y a celui du Bois de la Muse, qui est le plus ancien jardin familial de Nantes, et il y a les jardins de la Rabotière. Donc il y a 3 jardins familiaux qui sont assez grands, 70, qui représentent à peu près 180 parcelles. Voilà. Après, donc il y a les jardins partagés, le jardin Pollen et Colombole et le jardin Le Petit Bévert et les jardins du Jamais. Ou les jardins du Jamais, c'est par parcelle aussi. Ils ont plus de 30 parcelles. Mais ce n'est pas des jardins familiaux. C'est associatif. C'est vraiment au pied des immeubles. Après, il y a les jardins en pied d'immeuble. Voilà. Et donc ça, les jardins en pied d'immeuble, il y a donc celui de la résidence du Clos du Tertre, celui de la rue des Écoles à la Crémetterie et celui de la rue de l'Ariège. Donc 3 jardins familiaux, 3 jardins en pied d'immeuble, 3 et 3, 6. Les jardins du Jamais qui sont un peu entre les deux. Donc en fait, on arrive à 13 jardins à peu près. Et après, il y a les jardins d'association qui sont donc la petite ferme urbaine qui dépend d'Environnement Solidaire et le jardin de la Maison des Arts. Et il y a un projet de jardin où il va y avoir 10 parcelles Place des Lauriers qui va se mettre en place l'année prochaine. Donc en fait, l'émergence des jardins dans le quartier, c'est vraiment d'une grande richesse. Et tous les ans, il y en a plusieurs.
Héroïne du quotidien.
On monte à plus de degrés au niveau planétaire et plus de degrés, c'est l'insécurité alimentaire généralisée. Donc, pour faire face à cette insécurité alimentaire généralisée, je pense que les gens ne prennent pas conscience de ce que ça veut dire. Insécurité alimentaire généralisée, ça veut dire qu'il n'y a pas à manger pour tout le monde, partout. Donc, on peut dire la deuxième loi de la jungle, comme dit Pablo Servigne, c'est l'entraide et la solidarité. Et ça, ancrer l'entraide dans le quartier avant que cette insécurité alimentaire arrive, je pense que c'est fondamental pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce qu'effectivement, moi, je ne veux pas vivre dans une situation de guerre. Donc, si au moment où ça va devenir, on est un groupe fort qui mène des actions qui sont discrètes mais visibles, qu'on est identifié et que les gens savent qu'ils peuvent venir vers nous pour nous demander conseil ou pour qu'on vienne les aider à implanter du jardinage au pied de chez eux et qu'en même temps on ait suffisamment travaillé avec les institutions pour lever tous les obstacles institutionnels. Donc c'est comme un peu on pourrait dire qu'on ameublit le terrain et qu'on prépare un contexte favorable à ce que la situation qui nous attend tourne autrement qu'à la guerre.
là, tu m'as dit je vais me former à la permaculture, et la permaculture, c'est pas seulement une histoire de plantes.
Non, ni de jardinage. La permaculture, à la base, c'est vraiment une conception du monde. Alors, on dit la permaculture, c'est du design. Alors, le design, c'est pas prendre dans le sens américain du mot, puisque l'origine, elle est plutôt japonaise. Donc, on est dans, ça veut dire, on essaye de regarder son environnement, de rentrer en sympathie avec, ce que j'appelle rentrer en sympathie avec, c'est-à-dire on rentre dans les haies de framboisier et on s'immerge profondément dedans, avec plaisir et jouissance, et on voit comment, quelle place on peut trouver dedans, et comment on peut, la plus grande loi de la nature, c'est le compagnonnage et l'associativité, comme disait Jean-Marie Pelt. Ça veut dire, dans un même environnement, tous les êtres humains et tous les êtres vivants non humains s'associent et compagnonnent ensemble pour se construire une bonne vie pour tout le monde dans un environnement durable. C'est ça.
Ça veut dire qu'on n'est pas en concurrence
Non, en fait, la concurrence, ça n'existe que dans les situations d'abondance. Dès que l'abondance disparaît, on revient à la loi fondamentale de l'associativité, du compagnonnage et de l'entraide.
Héroïne du quotidien.
Qu'est-ce que c'est la chose dont tu es la plus fière?
Alors, la chose dont je suis la plus fière, c'est justement de ne pas avoir jamais lâché le morceau depuis 4 ans. Parce que quand je parlais d'obstacles institutionnels, la nature a son propre rythme et les institutions ont leur propre rythme, et ces deux rythmes ne vont pas ensemble. Et la plus grosse difficulté, c'est de faire entendre aux institutions que ce qui compte en premier, c'est le rythme de la nature. Alors ça, c'est très difficile à faire entendre et comprendre. Bon.
Et comment t'as fait ?
Alors, comme dit le bon sens populaire, cherche pas à couper le chemin à l'eau, elle trouve toujours son chemin. Donc, je pense que les obstacles, ils sont là pour nous apprendre à s'écouler par ailleurs. Donc, j'essaye de m'écouler par ailleurs les obstacles et de réapparaître de façon à l'improviste, on va dire. Et de façon impromptue. Oh, surprise, surprise, elle est rendue là. On l'attendait pas là.
Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin qui est derrière toi là? Tu m'as fait goûter un truc.
Ouais, je t'ai fait goûter des fleurs de choux. Les choux montent en graines en ce moment. Les choux qu'on a mis à l'automne. Et donc, ils font des magnifiques tiges garnies de fleurs jaunes. Alors, il y a les fleurs et les boutons. Et même avec les boutons, on peut faire des câpres. Donc en fait, il y a tout un tas de préparations culinaires qu'on peut faire. Il faut savoir que toutes les plantes qui ne sont pas toxiques sont comestibles. Après, comme dit mon amie Anne-Gaëlle, c'est pas parce qu'elles sont comestibles qu'elles sont toutes bonnes à manger. Donc, mais par contre, même pas bonnes à manger, on pourrait dire qu'elles peuvent devenir préparables. Et consommables. Par exemple, ce jardin est envahi de chiens dents. Donc le chien dent, c'est une herbe Et en temps de famine, donc on va la garder. C'est une herbe très très précieuse parce que elle, la stratégie de développement du chien dent, c'est de faire des réseaux très serrés de rhizomes. Et ces rhizomes, ils ont, en fait, toutes les plantes ont leur signature, et la signature du chien dent, c'est qu'elle soigne la peau. Donc on peut l'utiliser pour nous, pour soigner notre peau, mais elle soigne également la peau de la planète, c'est-à-dire elle soigne la terre dont on n'a pas bien pris soin. Donc quand, dès qu'elle voit une terre compacte, ah, elle se dit réjouissance, je vais m'y mettre et je vais la décompacter. Voilà. Et alors elle s'y met, et du coup elle s'y met partout. Et après, une fois qu'elle s'y est mise partout, il n'y a plus de place pour les autres. Donc. La nature, c'est ça le truc, la relation avec la nature, c'est qu'il n'y a rien à jeter. Je dirais même une plante qui est poison, on le sait bien, la digitale, le principe actif de la digitale, il soigne les maladies du cœur. Mais il ne faut pas abuser. On a de la chance, dans notre quartier, la moitié des espaces sont des espaces verts. Et dans ces espaces verts, par exemple, au Boiseau, il y a une allée entière de tilleuls. Donc ça, le tilleul, c'est
quand les fleurs,
c'est, alors les fleurs de tilleul, c'est au mois de juin. On se rapproche. C'est un vrai bonheur. Voilà, c'est un délice. Et c'est une plante apaisante. Alors moi, qui suis quelqu'un de très énergique, un peu trop. Moi, je bois pas de café, je bois pas de thé. Je prends des plantes calmantes dès le matin. Donc le tilleul, la mélisse, des choses comme ça. On arrête les excitants, c'est pas la peine.
Tu fais des cueillettes toute seule avec des gens?
Ah non, j'emmène des gens, on essaye de les faire ensemble. C'est comme le jardinage, c'est collectif. Donc en fait, la plupart des gens, ils ont l'habitude d'aller, je ne sais pas pourquoi, chercher des infusettes au supermarché. Dedans, il n'y a presque rien que c'est de la poussière. C'est même pas très bon. Alors qu'en fait, autour de nous, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se faire des tisanes savoureuses, délicieuses toute l'année.
C'est étonnant parce qu'on est dans un quartier où les gens, la plupart du temps, ce qu'ils repèrent, c'est les immeubles et tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup de verre.
Il y a beaucoup de verre. Il y a beaucoup de verre, et dans ce verre, il y a beaucoup de bonnes choses pour les tisanes, pour les salades, pour... En fait, plus je rentre en sympathie avec mon environnement, puisqu'en fait, c'est ça, hein, c'est une histoire de sympathie, plus je cueille et plus je... Alors en fait, je me fais toujours une grande crudité pour ma journée, où je mets de la laitue que j'ai été acheter, ou de la batavia, je préfère. J'ai été acheté à la ferme, de la choucroute crue, que j'ai été acheté à chlorophylle. Et puis après, je mets un peu de betterave ou de fenouil râpé, cru toujours, ou de carotte. Et puis après, je vais dans le jardin, ou je vais dans la rue, ou je vais au Boiseau, et je ramasse des herbes. Et les herbes, elles viennent agrémenter, parfumer ma salade du jour. Et je peux changer de parfum comme je veux. Alors au printemps, là, on peut vraiment y aller à fond. On trouve du trèfle, du plantain, de la chili millefeuille, des fleurs de chou, de tout, de tout. Des nombrils de Vénus. Des nombrils de Vénus. Bah, tu vois, Vénus, la Vénus de Botticelli, toute nue, avec son beau nombril au milieu de son ventre. Eh bien, ils sont juste là derrière, si tu veux, j'irai te les montrer. Et c'est parfaitement délicieux.
Génial.
Voilà. Et puis, j'aime bien rajouter des fleurs aussi dans mes plats. Donc, j'aime bien les fleurs de capucine, les fleurs de souci, les fleurs de...
Dis donc, c'est coloré.
Ah oui, c'est très coloré. Les pâquerettes, bah, les fleurs de trèfle, en fait, pratiquement tout ce qui est pas toxique, c'est comestible.
Merci Françoise.
Je t'en prie.
C'était les héroïnes du quotidien. Prise de son, interview, Angèle Goduchou. Montage, mixage, habillage sonore, Michele Batan. Création musicale du générique, Balthazar Baudin. Une production de la compagnie La Lune Rousse.